Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier épisode d'Aux Premières Loges, le retour en fait, pour cette édition des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est un podcast presque quotidien où on va couvrir et analyser à chaque jour de match les différents matchs de ce tournoi printanier de la Coupe Stanley. On est très excités que ça commence et on va être plusieurs à couvrir cela. Aujourd'hui, pour le premier épisode d'analyse de l'association. Ça va les gars?
Ça va bien, ça a juste coupé.
Ouais,
on
pas tous en même temps non plus. Ben, je pense que t'es un peu coupé.
Ah, j'ai un peu coupé, bon, mais c'est mon erreur dans ce cas-là.
Non, ça ouais. Va, ça va bien. Va?
Ça va bien.
Yes, ouais. Excité pour ce début des séries?
Toujours excité pour du hockey.
Écoute, c'est le meilleur moment de l'année, on est prêt. Hein.
Yes, c'est le printemps, c'est l'été qui arrive, il fait chaud enfin au Québec. Puis, il y a les séries qui arrivent dès lundi. Fait que on est très content de ça. Fait que on va parler de l'Ouest dans ce premier épisode. À commencer par Golden Knights de Las Vegas contre les Jets de Winnipeg. Personnellement, je pense que c'est une série qui pourrait être plus surprenante qu'on pense. Je ne sais pas si vous avez mis Vegas devant Winnipeg comme les experts diraient. Là, c'est eux qui sont favoris. Mais moi, il y a un certain Connor Hellebuyck, je pense, qui a connu une très bonne saison, qui pourrait changer la donne. Qu'est-ce que t'en penses, Greg?
Ouais, mais justement, moi, je pense que c'est la série dans l'Ouest qui pourrait vraiment... qu'on pourrait avoir une surprise. Je pense que les Jets, c'est une équipe qui est taillée sur mesure pour les séries. On a parlé de Hellebuyck, c'est un gardien, on le sait. On l'a vu dans le passé avec les Price en 2021. Quand ton gardien...
C'était l'an dernier.
Oui, exactement. Quand ton gardien va bien, ton équipe d'habitude va bien, c'est le genre, tu sais, si Hellebuyck performe en série, je pense que ça pourrait être une équipe qui pourrait surprendre. Là, on joue contre Vegas. Justement, eux, ils ont un peu une variation dans le filet. Là. On est allé chercher Quick, mais récemment, c'est plus Brossois qu'on voit devant le filet. Donc, je pense que ça pourrait être une surprise. Du côté des Jets, mais encore là, Vegas, c'est une puissance à l'offensive, une excellente défense, donc je pense que ça va être une série à vraiment surveiller, mais je pense qu'on pourra définitivement avoir une surprise là, de ce côté-là.
Du même avis, Vince?
Pas vraiment du même avis, je te dirais. J'ai misé, à chaque fois que j'ai misé sur les Jets cette saison, ils m'ont chié les mains. Fait que je te dirais que ma confiance en eux n'est pas très haute en ce moment, mais tu sais, je pense que c'est toujours difficile de parier contre un excellent gardien en séries éliminatoires. Fait que ça va être dur de parier contre Connor Hellebuyck et les Jets. Mais là, j'ai regardé justement les blessés. Là, on a tous les blessés qui reviennent des Golden Knights pour les séries. Là, Mark ouais, Stone, Carrier, Allen. Peut-être qu'on va voir un Logan Thompson aussi. Ouais. Parler de Greg du point d'interrogation devant le filet. Là, on va peut-être voir justement là, Logan. Je sais pas depuis quand il n'a pas goalé, mais si jamais ça va pas bien là, entre Quick et Brossois, je pense qu'il y a moyen de le voir devant le filet. Ils ont quand même gagné 51 games cette année. Puis... Fait que moi je pense, je vais y aller du côté des Golden Knights, là, juste parce que les Jets, j'ai aucune confiance en eux parce qu'ils m'ont fait perdre d'argent cette année.
Ben écoute, c'est comprenable. Ben, c'est ça, c'est sûr que le retour de Logan Thompson pourrait changer la donne. Mais en même temps, tu l'as dit, il n'a pas goalé beaucoup de matchs dernièrement. Je pense qu'il est revenu pour quelque chose comme un ou deux matchs, puis il a été reblessé après. Là, fait que
ouais.
Ça n'a pas bien été de son côté en fin de saison. Mais ouais, c'est sûr que le retour de Mark Stone, qui vraiment, lui, au cours des deux dernières années, mettons, ça va vraiment pas bien au niveau de la santé. Là. C'est un joueur qui est très fragile. Puis ensuite, la profondeur offensive des Golden Knights, ça a bien été cette année. Mais je regarde du côté des Jets avec des Scheifele, des Connor, des Ehlers, des Pierre-Luc Dubois qui devraient tous jouer. Ils n'ont pas joué le dernier match. Mais je pense qu'on a peut-être plus d'armes si tout ce monde-là joue bien. Jack Eichel, du côté de Vegas, sa première expérience en série en carrière. Donc, puis avec un Hellebuyck qui peut sortir. Moi, j'ai mis les Jets en 7 dans mon bracket que j'ai réussi à faire, mais pas à rejoindre la Ligue du Club École, malheureusement. Fait que, c'est ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus?
Ouais, ben ça va être intéressant de voir Jack Eichel, comme tu as mentionné, là, pour la première fois. Puis je mentionnerai aussi, du côté défensif, ça va être intéressant de voir si Josh Morrissey des Jets va pouvoir continuer sur son air d'aller. Il a une excellente saison. Puis ben, tu sais, les séries, des fois, c'est une différente game. Donc, on va voir vraiment s'il va pouvoir être autant impliqué offensivement en série. Puis ça va être un gros morceau pour les Jets. Ça va vraiment les aider s'il peut tu sais, participer à leur offensive.
Tout à fait. On passe à l'autre série. Oui, je prends ça pour un oui. Mon son, est-ce qu'il est toujours good? Ça va
bien. Parfait.
Parfait. Pas de bug, c'est super. Super. Donc, l'Avalanche, qui est terminée au premier rang de la centrale, va affronter le Kraken de Seattle. Seattle, deuxième saison dans la Ligue nationale, première participation aux séries. Ils ont amélioré leur équipe dans l'entre-saison, mais c'est quand même une surprise pour moi de les voir en série, même s'ils ont été constants. On chutait un peu vers la fin de l'année, mais quand même, on était en place pour les séries dès le début, pas mal. Mais pour moi, même malgré le fait que Landeskog ne jouera pas en série, je vois pas comment le Kraken pourra battre l'Avalanche. J'ai mis l'Avalanche en 5, là.
Moi, je suis pas d'accord avec toi, Ali. Je pense pas que Nate Dogg va se faire éliminer en première ronde après avoir gagné cette année. Je pense pas qu'il va laisser ça arriver. Puis l'Avalanche, c'est juste une équipe extrêmement talentueuse. Là. Avec Rantanen, justement McKinnon, Kyle McCarr en défense, devant Taves. Puis je vois pas non plus comment Philip Grubauer pourrait apporter le Kraken en plus qu'en première ronde quand il n'a pas été capable de faire ça avec l'Avalanche il y a 2 ans. Là. Fait que. Non, je pense que ça va être un walk in the park pour l'Avalanche et Nathan McKinnon.
Ouais, moi aussi, j'ai mis Avalanche en 5. Ça pourrait être en 4 même. Je pense que Kraken...
Ouais.
J'ai de la misère à aller voir causer une surprise contre l'Avalanche en première ronde. Comme tu as mentionné, Grubauer, contre son ancienne équipe, pourrait amener quelque chose. Je l'espère pour eux. Sinon, peut-être qu'on va voir même Martin Jones. On ne sait pas encore vraiment. Ils se sont vraiment partagés le travail tout au long de l'année. Puis en plus, je pense que Kraken vont pas pouvoir compter sur Burakovsky pour commencer la saison, de ce que j'ai lu. Ça, c'est un gros morceau en attaque qui a été un de leurs meilleurs attaquants tout au long de l'année. Leur punch à l'attaque, vraiment, ça va être leur force. Je pense qu'ils ont beaucoup d'attaquants qui ont une saison intéressante à Seattle, mais vraiment, je vois pas comment ils pourraient causer une surprise, battre l'Avalanche 4 fois en 7 parties. Ou moins. Donc, non, moi, je donne cette série-là à l'Avalanche, vraiment.
Vas-y.
Parce que j'avais oublié, en parlant de talent, là, j'avais oublié le numéro 47 là, de l'Avalanche qu'on va voir en série. J'espère qu'il va jouer M. Alex Galchenyuk. Il ne faudrait pas l'oublier là, quand on parle de joueurs talentueux. Là.
Ouais, donner une belle passe sur la palette à un joueur en prolongation.
De l'équipe adverse.
Pourquoi pas. Greg, tu parlais de Seattle avec le punch offensif. Ce qui est intéressant avec Seattle, ce qui pourrait peut-être leur donner un peu d'espoir contre l'Avalanche, c'est le fait que c'est très équilibré au niveau du temps de jeu de chaque ligne. Chaque ligne fait son travail du côté de Seattle. Je pense à un Daniel Sprong sur un quatrième trio qui a comme 20 buts cette saison. Au contraire de l'Avalanche qui ont leur grosse ligne avec McKinnon, Rantanen, on n'a pas de grosses lignes comme ça du côté de Seattle, mais chaque ligne est capable de contribuer et de jouer à sa façon-là. Donc peut-être qu'on va être capable de contrecarrer le bottom six de l'Avalanche, mais encore une fois, moi, je leur donne un match là, à Seattle. Je pense que l'Avalanche, Nathan McKinnon est en feu pour finir cette saison-là. Il a fini avec un tour du chapeau.
Son but hier.
Dernier match. Kyle McCarr, moins grosse saison que... Je te vois grimacer, Evan, ça va
sûr. J'ai le but à McKinnon hier. Il est prêt.
Que dire de plus que... Oh là là. fait que, ouais, c'est exactement ça. Il y a Kyle McCarr qui a connu une saison moins flamboyante que l'an dernier, mais c'est Kyle McCarr. Je pense qu'on va revoir le meilleur de Kyle en série. Là, Greg, tu t'es d'accord?
Ouais, je veux dire, c'est une saison moins wow que l'an dernier quand même. Je pense que ça serait le meilleur défenseur dans pas mal toutes les équipes, malgré le fait que c'était pas une saison autant flamboyante que l'an passé. peux dire, c'est un défenseur extrêmement solide encore. Là. C'est, puis aussi, je veux dire, c'est Rantanen, je pense qu'il a marqué son 50e il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Je veux dire, le côté talent, ici, il n'y a pas de. Il n'est pas vraiment. Du côté de Seattle, c'est pas vraiment. Ils peuvent pas vraiment rivaliser de ce côté-là. Là.
Ah, pas du tout, pas du tout. Tu avais quelque chose à ajouter, Vince, ou on passe à la prochaine série?
Ben moi, je demandais juste justement de comment qui, tu parlais de Seattle qui fait beaucoup jouer son club, là, ouais. Qui roule les lignes. Je demandais ça va être quoi le match-up là, pour
ouais.
Comment qu'on va essayer de matcher les lignes. Parce que tu sais, mettons, tu regardes en ce moment sur la première ligne, je pense que c'est Matthew Bernier, le premier centre. T'sais, sur le match-up, comme on a un Nathan MacKinnon, je l'aime bien Bernier, c'est quand même, ça devient que c'est une recrue. S'il se fait match-up contre Nathan MacKinnon, je pense pas qu'il va toucher souvent la rondelle. Là, fait que je sais pas si j'ai hâte de voir le line match-up. Là.
Ouais, est-ce qu'on vouloir mettre un Yannick Gourde ou ouais. Écoute, la quatrième ligne avec Tanev, je sais pas. C'est une très bonne interrogation. Je pense qu'il y a personne, aucune de ces lignes, même s'ils remplissent bien leur rôle en saison régulière, qui vont pouvoir compétitionner contre le premier trio redoutable de l'Avalanche. D'accord avec toi là-dessus. Fait que passons donc. À l'autre série dans la centrale, on va se garder les Oilers pour le dessert. Dans la centrale, donc, grosse série, c'est aussi autant robuste que talent. Là, le Wild du Minnesota contre les Stars de Dallas. Dallas qui s'est fait, avec la victoire de l'Avalanche hier, s'est fait dépasser et finissent donc deuxième dans la centrale. C'est une série que j'ai quand même hésité là-dessus. Fleury contre Ottinger, pardon, à moins qu'on y aille avec Gustafsson. Sinon, on a Kirill Kaprizov qui peut changer le cours de la série à lui seul. Il est de retour, une chance pour le Wild. D'autres bons éléments en attaque, là, Matthew Boldy, entre autres, côté de Minnesota. Mais les Stars, avec un Ottinger dans le filet qui a amené la série à lui seul là, en match numéro 7 l'an dernier contre Calgary, là, en première ronde. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série-là. Et en plus, Robertson, Rupe Hintz qui sont en feu. Jamie Benn qui joue du bon hockey pour la première fois depuis quelques années. Donc, moi, j'ai mis les Stars, mais je m'attends quand même à une série divertissante. Qu'est-ce que t'en penses, Greg?
Ben, moi aussi, je vais suivre avec ça. Je vais y aller avec les Stars. Un peu moins serré. Je pense que les Stars vont gagner cette série-là. Je pense qu'il y a encore... on ne sait pas encore exactement si ça va être qui le gardien pour le Wild. Je pense que récemment, c'est vraiment Gustafsson qui a gagné la confiance de son entraîneur.
Ouais.
Une saison très intéressante, mais il n'y a pas beaucoup d'expérience en série comparativement à Fleury. Ça va être intéressant de suivre ce dossier-là. Je pense que le punch à l'attaque des deux côtés est vraiment intéressant, mais côté gardien, justement, je pense que c'est ça qui donne vraiment l'avantage aux Stars pour cette série-là. Ottinger, j'espère qu'il va pouvoir continuer sur sa lancée de l'an dernier en série. Vraiment, il avait donné un second souffle aux Stars. Puis la partie numéro 7, c'est dommage pour lui qu'il aille perdu finalement en prolongation parce que c'est une des meilleures performances de gardien de but que j'avais vu dans ma vie. Donc, je donne cette série-là aux Stars. Puis ça va être intéressant de voir aussi comment les deux équipes vont se comporter. Je pense que Ice Cannon aussi va être un X-Factor. Parce que je pense que c'est un des défenseurs les plus sous-estimés de la Ligue. J'ai hâte de voir comment cette jeune équipe-là, mais mixée aussi avec des joueurs plus vieux, comme tu as mentionné, Jamie Benn, une saison intéressante, va se comporter en série.
Vince?
Je me penche du même côté que vous autres. Là. Je pense que c'est les Stars qui vont sortir vainqueurs de cette série-là. Si je regarde juste... on parle souvent que c'est important de bien rentrer en série, là. Les Stars, ils ont fini 8-2, tandis que du côté du Wild, là, c'est 5-3-2. Donc, on parle de plus une fiche de 500 pour finir les 10 dernières games. Fait que ça, selon moi, ils n'ont pas le momentum en rentrant dans les séries. Puis, on parlait aussi tantôt de Hellebuck. Puis, quand il a glissé un solide mot, là, on parlait de Ottinger et ses performances l'année passée. C'est quelqu'un qui peut bien. Qui peut voler une série, c'est bien lui. Fait que je pense pas que le Wild va pouvoir faire grand-chose, là, malgré que c'est quand même une équipe qui est bien bâtie. Puis c'est pas des petits joueurs, là, avec l'acquisition de Ryan Reeves, c'est avec Marcus Foligno, Ryan Hartman. Ils ont pas mal de gars qui ont pas mal de papier sablé. Là, fait que des fois, c'est ça qui fait la différence. Il reste à savoir comment les Stars ont réagi, mais je suis quand même confiant là, de, du côté des Stars, là, on a quand même du monde qui sont capables de jouer dans la tête des autres avec un Mason Marchman, Jamie Benn, qui ne stagne jamais, puis le bon vieux Joe Pavelski aussi qui est capable d'en donner un peu à l'autre équipe. Là, fait que, j'ai peur de voir, juste toi, Evgeny Dadonov.
Dadonov, c'est exactement ce que j'allais dire.
S'il va se transformer en fantôme ou il va être capable de faire quelque chose, j'ai hâte de voir. Je trouve que c'est quand même une série intéressante. Là.
Ouais.
Je trouve ça triste encore que ça va arriver à Marc-André Fleury, mais s'il obtient le départ la première game puis il a peur, je pense pas qu'on va le revoir pour la deuxième rencontre. Là, fait que,
ouais.
J'ai hâte de voir ça. C'est mon plus gros. C'est ce que j'ai le plus hâte de voir, je pense, de cette série-là. C'est quand même l'utilisation des gardiens du Wild.
Je suis d'accord avec toi. Greg, tu l'enchaînes, vas-y.
Ouais, mais ouais, tu as parlé de papier sablé du côté du Wild. C'est aussi mentionné défenseur des Stars, je pense qu'il va avoir un grand travail cette série-là, c'est Yanni Akanpa. Je pense que ce que là dans Fantasy, là, dans ton pool, il garantit comme 8 mises en échec par soir. Je pense qu'il va avoir du travail, il va devoir être le général un peu côté mise en échec de cette équipe-là. Je pense que ça va être une confrontation intéressante parce qu'il y a beaucoup de gros joueurs. Là, ça va frapper fort.
Tout à fait. Puis t'sais, on a parlé des Stars qui, l'an dernier, c'était fait carry, si je peux me permettre l'expression, par Ottinger. J'ai l'impression que cette année, on a beaucoup plus d'armes. T'sais, on a non seulement Robertson, Hintz qui ont connu des saisons absolument fantastiques. On a Ben qui va mieux, Séguin qui va mieux, Dadonov, Pavelski, Akinpa, Wyatt Johnson, Ace Cannon qui, enfin, t'sais, il avait toujours été bon défensivement dans les précédentes saisons. Mais là, cette année, il a vraiment ajouté l'aspect offensif aussi. Je pense que c'est plus de 60 passes là, cette année. Enfin, c'est fou comme production. Puis je regarde la défense du Wild. Puis j'ai des incertitudes. Est-ce que vous m'appuyez là-dessus?
Certainement. Je pense que c'est ça leur cadre. Ben, j'ai hâte de voir ce que Klimberg va faire comme son ancienne équipe. Je me demandais justement hier, là, je faisais le tour et je me souvenais pas où Klingberg avait fini la saison. Puis je trouve qu'il est vraiment passé un peu sous le radar, là, mais en effet, Jacob Middleton, il y a encore beaucoup de gros bonhommes. Là, Middleton, John Merrill, c'est deux gros gars. Fait que j'ai hâte de voir avec la vitesse que les Stars peuvent avoir. Là, je pense que ça va être, comme tu dis, je pense qu'ils vont en avoir plein les bras. Puis c'est un gros point d'interrogation, ça aussi. Là.
C'est ça. Je pense qu'il va y avoir un enjeu au niveau de la mobilité. Ce que la défensive des Stars a bien plus, là, entre autres avec un Scannon. Quoi qu'il y a un Ryan Suter là, qui est lent et vieux, mais bon. Est-ce que vous êtes prêts à passer à notre dernière série?
Ben, j'avais peut-être. C'était pas grand-chose, là, mais on en parlait de Gut, puis je me suis souvenu là, aussi que Max Domi est un Stars. Fait que j'ai hâte de voir aussi comment lui il va se débrouiller en série.
Ouais, avait été. Vas-y.
Ben, vous pouvez y aller, j'étais en train de réfléchir. Fait que
écoute, je vais compléter ta réflexion, puis je vais dire que Max Domi, je pense, dernière présence en série. Attends, c'était-tu dans la bulle, sa dernière présence en série avec le Canadien?
J'étais en train de regarder ça.
Il a joué avec les Hurricanes l'an passé.
Exact. Ah, c'est ça, les Hurricanes, il a joué avec les Hurricanes l'an passé. Puis il avait quand même marqué quelques buts importants, je me rappelle.
Il s'est présenté en game numéro 7, là, je pense qu'il avait fait deux buts, une passe en game 7, mais...
Ouais, peut-être, on ne sait jamais, qu'il pourrait être un élément important pour Dallas, mais en même temps, dans la bulle à Montréal, avec Montréal dans la bulle en 2020, il avait été sur un 4e
jeu,
invisible.
Dans le dugout, puis...
Exact. Bon, dernière série, pourquoi c'est la série sur le gâteau? C'est parce qu'on a l'expert Oilers avec nous pour nous parler de ça, Vincent Tardif, qui est un partisan des Oilers. Qui vont affronter les Kings, fait que c'est un remake de l'an passé en première ronde, où les Oilers avaient battu les Kings en 7 parties. Moi, je m'attends à ce que ce soit encore les Oilers qui gagnent et que ce soit en moins de parties. Vince, est-ce que tu es d'accord avec ça?
On dirait que je ne veux pas me blesser parce que les Oilers m'ont tellement blessé souvent depuis les dernières années, que je suis pas capable d'être super confiant face aux Kings. Je trouve vraiment que c'est une équipe qui est complète. Là, puis c'est une équipe, on dirait, pas qu'il est bâti pour stopper les Oilers, mais un peu, tu sais, si tu regardes, Andrei Kopitar, c'est un des centres two-way les plus dominants de la Ligue depuis de nombreuses années. Philippe Dano, dans l'année de la bulle, l'année de la division canadienne, là, Philippe Dano a juste retenu McDavid et Draisaitl. pendant la saison. Fait que c'est sûr que ça a un peu peur. Là. Puis avec Korpisalo qui a été cherché devant le filet, Gavrikov, puis les jeunes, c'est sûr que je sais être confiant qu'ils vont passer, mais j'ai quand même mes. Je veux pas me faire mal. Fait que je suis pas mal sûr aussi qu'ils vont gagner. Tu sais, je parlais tantôt aussi de bien rentrer en série, les Oilers depuis la date limite. Là. Je pense que les défaites se comptent sur le doigt d'une main là, en temps réglementaire. Fait que je pense que c'est vraiment autre chose. Puis je trouve vraiment que c'est une équipe changée depuis ce temps-là. Stuart Skinner a vraiment pris de la confiance. Ouais. On verra, oui. C'est clair qu'on verra pas Jack Campbell là, en série, à moins que ça aille vraiment mal. Là. Je vraiment que ça aille mal, mais. Fait que non. Puis les 97 puis le 29, je pense qu'ils vont se lever puis vont continuer leur excellente saison. Là, quand l'année passée, tout le monde se demandait ce qu'il allait faire en série. Personne ne croyait que c'était un gars de série, que c'était un gars de saison. Je pense qu'il a démontré l'année passée qu'il est capable de faire un peu ce que Crosby a fait durant sa carrière, d'élever son jeu d'un cran puis de mettre l'équipe sur son dos. Fait que non, j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être une excellente série. Puis je vais demeurer stressé jusqu'à temps qu'il passe les Kings. Là.
Tu vas stresser quand ça va être la deuxième ronde.
Non, juste de perdre des cheveux aussi. Fait que,
c'est la malédiction des fans et du stress de séries éliminatoires, mais c'est des belles émotions quand même. Greg, ton avis là-dessus, toi?
Ouais, je pense que c'est une confrontation extrêmement intéressante. J'ai le goût d'être original aussi en disant les Kings, mais je pense aussi que les Oilers vont l'emporter en moins que 7 matchs, comme tu as mentionné. Pourquoi? Je vais juste donner ça à cause que. Du côté devant le filet, je pense pas que Korpisalo va être capable de. Je veux dire, l'an passé, je pense que McDavid et Draisaitl, les deux avaient deux points par match en série sur 16 matchs, je pense. 32 points, 33 points en 16 matchs. Je veux dire, ça va être une série intéressante. Je pense que les Kings, c'est un alignement extrêmement intéressant. Mikey Anderson, c'est le genre de joueur qui peut. Faire mal à l'adversaire, je veux dire, c'est un joueur que tu veux pas jouer contre. Je pense que ça va être lui qui va vraiment être, si on parle de matcher les lignes un peu, je pense que c'est le joueur avec Dowdy, la paire défensive qu'on veut voir contre ces joueurs-là. Je pense que leur première ligne en attaque, leur top 6, c'est vraiment un top 6 intéressant. Ouais. Leurs deux premiers centres, c'est des joueurs qui sont capables de autant s'impliquer offensivement que défensivement. On parle de Kopitar puis Dano. Puis, je veux dire, Rosel, on voit Adrian Kempe qui vient de marquer 40 buts cette saison. Donc, je pense que ça va être une série très offensive. Mais je donne l'avantage aux Oilers. Là. Je pense que McDavid et Draisaitl ne vont pas se faire arrêter si tôt cette saison. Puis du côté des Oilers, j'espère que leur chance côté loterie va s'appliquer cette saison aux Canadiens. Ça se ferait du bien de gagner une autre loterie cette saison-là.
ça se ferait beaucoup de bien. Très bien. Il y a Kevin Fiala qui, quand je garde les lignes, est marqué day-to-day, mais il devrait être de retour là, pour les Kings, si je ne me trompe pas.
Ça devrait.
Je pense que c'est juste un mouvement d'alignement comme c'est habituel en fin de saison. Mais c'est ça, Fiala aussi, là, tu ne l'as pas mentionné dans le top 6 des Kings, mais ça va être un joueur très intéressant pour l'animation offensive si on veut essayer de compétitionner offensivement contre les Oilers. Qu'est-ce que j'allais... Ouais, c'est ça. Vince, je veux que tu me parles de Mathias Ekholm, la nouvelle acquisition des Oilers qui fait très bien avec Evan Bouchard, entre autres. Et qui solidifie la défensive des Oilers comparé à l'an passé.
Oh, c'est incroyable. C'est tellement une des meilleures acquisitions. En fait, c'est la meilleure acquisition de. Je veux dire, sans être bias, c'est la meilleure acquisition de Kenner de sa carrière. Là. Peu importe quelle autre, c'est la meilleure. On dirait un peu aussi que je trouvais que Mathias Ekholm, il est quand même rendu à 32 ans. Puis je trouvais qu'il était un peu sur le déclin depuis 2 ans. Ouais. Et je ne sais pas si Evan Bouchard, c'est peut-être le partner que ça lui prenait pour un peu leur monter sur un. Là, dans le fond, de remonter la pente là, qui est en train de descendre. Parce qu'il, pour vrai, il est vraiment. C'est fou. Là. Il est plus 28 en 21 games avec les Oilers. Là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Là?
Je veux dire, c'est fou.
Son apport est tellement important. Là.
Puis là, au moment de la transaction, honnêtement, j'étais un peu sceptique. Je voyais Ekholm pour Barry, puis il y a d'autres éléments. Je me disais, Ekholm, me semble que ses meilleures années sont derrière lui. Puis là, je peux pas. Je, je peux rien dire, là, avoir plus 28 en 21 parties. Je pense qu'il a accumulé aussi beaucoup de points. Les Oilers, c'est la meilleure équipe dans les nationales récemment. Puis je pense Ekholm, ça l'a juste fait solidifier cette défensive-là. On parle aussi de Nurse. Bon, son contrat n'est pas idéal, mais je pense que c'est encore un défenseur très solide. Puis Bouchard aussi, qui est capable de déjouer les gardiens avec son lancer frappé. Je pense que ça va être, une série très offensive. Puis ça va être vraiment plaisant à regarder.
Sans oublier Brett Kulak, qui honnêtement fait la job sur une troisième base.
Si Brett, il peut savoir qu'il mesure 6 pieds 2, puis qu'il pèse, comment il pèse Brett, là. S'il peut savoir qu'il pèse 6 pieds 1 puis qu'il pèse 200 livres, là, ça pourrait peut-être l'aider. J'aimerais bien ça. Là.
Parce que souvent, il se prend plus gros qu'il est?
Non, souvent, il oublie qu'il est gros.
OK, il oublie qu'il est gros. Okay,
bon. Ouais, il oublie qu'il est gros puis qu'il peut se servir de son corps pour tasser le gars un peu.
Bon, ben on souhaite que Brett se remémore cela. Ça va aider les Oilers. On a parlé un peu du système défensif des Kings tantôt avec Dano, Kopitar qui vont devoir obligatoirement neutraliser les lignes de McDavid et Draisaitl. Mais aussi, ce qui va être extrêmement important pour n'importe quelle équipe qui va jouer en série contre les Oilers, c'est ne pas leur laisser davantage numérique, n'est-ce pas? Parce que c'est le meilleur power play d'histoire, quelque chose comme ça?
Oui, ça a été officiellement le meilleur power play d'histoire.
En haut de 30%, c'est incroyable.
Écoute, t'as trois joueurs de 100 points, t'as Zach Hyman à 83, t'as Evander Kane qui, s'il n'avait pas été blessé, aurait fait le même genre de points. Puis je pense que la moitié des points de Nugent Hopkins ou plus, c'est en avantage numérique. C'est pas compliqué. Tu laisses un avantage, tu laisses trois avantages numériques en une partie, c'est déjà un but qui est plus.
Puis je pense, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'eux, ils peuvent se permettre vraiment de garder quasiment les mêmes 5 joueurs pendant les 2 minutes. Je pense qu'il y a vraiment peu de formations qui peuvent faire ça. Je pense que Kane se retrouve sur la deuxième avantage numérique. Il voit rarement du temps de jeu en avantage numérique. Puis c'est un joueur qui peut faire la différence. Là. Mm-hmm. Puis, je veux dire, c'est un avantage numérique, leur première unité, qui fait énormément de ravages, puis je pense que les Kings, justement, vont devoir éviter de se retrouver dans le banc des pénalités.
C'est sûr et certain. Vince, t'avais-tu quelque chose à ajouter sur cette série-là, Théo Lewis?
Tu parlais, dans le fond, de Nugent Hopkins, là, ses points en série, ses points en powerplay, pardon. Ouais. C'est la moitié de ses points, en fait, qui a obtenu lors du powerplay. Il a fini avec 104 points, puis il a 53 points en avantage numérique. Fait que c'est quand même cool. Puis aussi, Leon Draisaitl, il a quand même une saison de encore 50 buts cette année. Puis
ouais.
32 de ses buts sont arrivés sur le power play. Fait que quand même très dangereux. Là.
C'est pas un record, ça, je pense.
Ouais, je pense que le record, c'était 33. Justement, quand je l'ai vu passer, là, quand il a marqué contre les Sharks mercredi, ils ont montré le record, justement, là. Il était à égalité ou il manquait un but là, pour égaler le record. Fait que...
Est-ce qu'on sait c'était qui détenait le précédent record?
Je crois que c'est M. Dale Hawerchuk.
C'était Kerr des Flyers dans les années 90-90.
Ouais, c'est quoi? Neuendijk. Non, c'est quoi son nom? Le gars qui est captain du Lightning là, en 2004. C'est quoi son nom?
Captain du Lightning en 2004. Brad Richard.
Ouais. Non, c'est pas Hawerchuk.
C'est segment département de recherche ici qui soit allé.
Dave Andrechuk.
Bon, voilà.
C'est lui qui avait marqué aussi. C'est un gars qui était réputé justement pour son apport sur l'avantage numérique. Là, puis je pense qu'il y avait ça aussi une saison de 32 lui aussi. Là, fait que...
Ben, ça montre comment c'est phénoménal. Là. Écoute, 32 buts en avantage numérique. Puis l'affaire avec Leon Draisaitl qui, encore une fois, passe un peu sous le radar. À cause que McDavid a une saison de plus de 150 points, il est à quoi? 123?
128.
On n'en parle pas assez de Draisaitl, mais lui aussi, c'est extrêmement dangereux. Et il va jouer sur deux jambes en série cette année. Ben, à moins qu'il se blesse encore parce que.
Que je te vois porter malheur à mon équipe.
Comment?
Que je te vois porter malheur à mon équipe, on parle pas de ça.
Ben écoute, je dis juste qu'il va, il va avoir plus d'atouts dans son jeu. Bref.
Si il se blesse, ça va être de ta faute.
Mais non, écoute, mets-moi pas ça sur ma faute. C'est, j'ai pas rapport là-dedans, je bête ben pas, moi. Là. Bon. Fait que les gars, juste récapituler sur nos prédictions en tant que telles. Donc, pour ce qui est des Jets, Oilers, moi, je vais y aller, là, je vais y aller avec les Jets en 7 pour Connor et les Bucks. Vince, toi, t'étais plus Vegas?
Ouais, je vais y aller Vegas en 6.
Vegas en 6, Greg?
Jets. Jets et les Bucks, je pense qu'on va faire la différence.
Jets en 7?
J'ai écrit Jets en 6 même. Okay. Je suis audacieux.
On aime ça, l'audace, on aime ça. Ensuite, on avait Avalanche contre Kraken. Moi, je l'ai dit, ça va être un match au Kraken, Avalanche en 5.
Même chose.
Même chose. Et M. Tardif?
excusez, ça a comme gelé, on disait.
On disait que nous deux, c'était Avalanche en 5 contre le Kraken.
Ah oh, ouais, c'est l'Avalanche en 5.
Avalanche en 5, bon, on s'entend là-dessus, c'est le fun quand on s'entend à tous. Super. Stars Wild, ça, je pense qu'on est tous pour les Stars. Même si ça, c'est une série qui pourrait être, tu sais, Kirill qui a pris ça, on l'a dit, là, pourrait changer ça. Mais j'y vais quand même avec les Stars en 6. Vince?
Pareil, Stars en 6.
Stars en 6. Et Greg?
Je ne vais pas faire la même chose. Je vais faire un peu de différence. Je vais y aller... Je ne sais pas si c'est 7. Je vais y aller avec 5 même.
Toi, tu les vois en finale, les Stars, si je me rappelle bien ton bracket.
Oui, j'ai beaucoup de confiance en Attinger. Je pense que le gardien, tout le temps, je pense que le gardien va faire une grande différence. Quand tu as un bon gardien en série, ça peut t'amener loin. Puis j'ai confiance en Attinger et leur punch à l'attaque.
Très intéressant, très intéressant. Et pour finir, moi, j'y vais avec les Oilers. C'est en 6, je crois que j'avais mis. Il y a la trappe des Kings qui va leur permettre d'aller chercher deux matchs. C'est ce que je prédis. Mais même ça pourrait être 5, je pense. Mais Oilers en 6.
Pareil pour moi.
Pareil pour toi.
Je veux dire Oilers en 5. Je pense que... Je pense qu'ils ont les deux meilleurs pointeurs dans la ligue. Je pense que Kopitar va pas être capable de même si on a un bon, on a dit une bonne formation défensive, je pense que ça va juste pas être assez pour arrêter ces deux joueurs-là. Puis même on parle juste
de Kings.
104 points, Kane. En tout cas, je pense qu'ils vont pas être capables, ils vont pas être en mesure d'arrêter les Oilers. Là.
C'est tentant de mettre en 5. Je vais rester avec 6. Fait que les boys, c'est ce qui conclut ce premier épisode, donc l'analyse de l'Association de l'Ouest pour la première ronde des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Demain, on va avoir probablement d'autres collaborateurs qui vont joindre à nous pour un autre épisode, ce qui va être sur l'Association de l'Est. Donc, et là-dessus, ben je vous remercie d'avoir été là, Greg et Vince, ça fait un plaisir.
Merci beaucoup.
Et je vous souhaite de très bonnes séries à vous à la maison aussi. Merci et à bientôt.